Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes en présence de Mario Cyr, Madelino, plongeur en eau froide et directeur photo. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour le bénéfice de la population étudiante de l'Université de Sherbrooke. Premièrement, dites-moi, M. Cyr, parlez-nous de ce qui vous a amené aux aventures professionnelles que vous poursuivez aujourd'hui.
Ben justement, le fait d'être né aux îles de la Madeleine, c'est sûr, hein, entouré d'eau. Ben, quand j'étais jeune, je passais vraiment mes étés sur une plage là, qu'on appelle la Bluff. Et c'est vraiment là que j'ai commencé, je dirais, à avoir mes premiers balbutiements dans l'eau. Donc, aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe parce que j'ai eu la chance, je dirais, à 10 ans que mes parents m'ont offert comme cadeau Palme Masque Tuba. Puis c'est peut-être un cadeau qui a changé ma vie. Donc, j'ai commencé à aller voir sous l'eau, justement, les petits homards, les crabes, les plis. Et dès que j'ai eu la chance, ça veut dire à 16 ans, j'ai suivi mon premier cours de plongée. Et bien sûr, à 16 ans, quand tu suis un cours de plongée, bien, c'est pour faire de la plongée sportive. Mais à partir de 19 ans, j'ai rentré dans le monde de la plongée commerciale. Et la plongée commerciale, là, ben, c'est ça, c'est construire des ponts, des quais, travailler dans les bateaux, sous les bateaux. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, le fait de me retrouver plongeur, c'est ce que je voulais faire. Mais à partir de 1984, tout à fait par hasard, j'ai commencé à faire des images sous l'eau. Et donc, ça aussi, j'ai tombé dans un monde qui me fascinait vraiment. Et à partir de 1991, ben là, j'ai eu un appel pour la première fois de National Geographic pour aller filmer les morses dans l'Arctique. Et je dirais que c'est vraiment à partir de 91 que là, mon art a commencé à circuler. Au moins que j'ai rentré, on va dire, dans cet univers-là, là, de vraiment dire gagner ta vie en faisant des images là, comme caméraman sous-marin.
Il est évident que le froid représente un défi supplémentaire. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la plongée en eau froide?
Bien, encore une fois, le fait d'être aujourd'hui, être capable de passer 4-5 heures dans l'eau, c'est encore, je dirais, un peu l'effet du hasard parce que justement, la plongée commerciale, je dirais, c'était vraiment drôle parce que l'été, on n'avait pas de travail. Le travail commençait au mois de décembre quand l'eau commençait à être très froide. Donc, souvent, on arrivait sur les chantiers où on voyait les pelles mécaniques qui cassaient la glace avant. De s'immerger sous cette glace-là. Donc, j'ai passé beaucoup d'heures dans cette eau froide-là à travailler, à faire de la soudure, à percer des trous, à bien sûr organiser pour monter soit des quais ou des ponts, des choses comme ça. Donc, surtout aux îles, mais aussi du côté un peu de la Gaspésie, puis du côté aussi de cette île, donc sur la côte nord. Et à force de passer du temps dans cette eau froide-là, ben mon corps s'est adapté à cette eau froide-là. Donc, après ça, je pouvais en faire de plus en plus. Mais aussi les images, parce que vous savez, ici, il y a les phoques du Groenland l'hiver, donc au mois de février, au mois de mars. Donc, les premières équipes de tournage avec laquelle j'ai eu affaire, ben on était dans la glace, on était sous la glace. Et bien sûr, les caméramans qui venaient, ben souvent, ils n'étaient pas capables de rester longtemps sous cette banquise-là. Donc, je servais un peu comme d'assistant caméraman, mais souvent, je finissais à faire les images parce que moi, c'était pas un problème là, de passer une heure, deux heures, trois heures sous cette glace-là. Et quand j'ai mis les pieds dans l'Arctique, ben, c'est sûr que pour moi, ça reste encore aujourd'hui le plus bel endroit au monde. C'est un endroit extraordinaire. Et j'essaie toujours de y aller le plus possible. Et dans notre monde, nous, ben on a, je sais pas, peut-être 10, 12 projets qui nous est présenté par année, mais il va peut-être en avoir 4, 5 qui vont voir le jour. Et c'est sûr que je mets toujours en priorité l'Arctique, la Norvège, la Russie, l'Islande, le Groenland. Donc, l'Alaska, c'est tous des endroits où il fait froid, mais qui est pour moi les plus beaux endroits. Donc, c'est pour ça que je me retrouve souvent dans ces coins-là. Là.
Maintenant, parlez-nous des vêtements et de l'équipement qui est nécessaire pour réaliser des images dans des contextes aussi froids.
Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, les équipements pour plonger en eau froide sont beaucoup plus sophistiqués qu'avant. Hein. Ça a changé énormément. Il y a vraiment deux choses. Bon, les équipements, ce qu'on appelle un biseothermique étanche, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est complètement différent que dans les débuts, la fin des années 70. Mais tu as tout aussi ce qu'on met à l'intérieur. L'avenue de la laine Mirino, mettant, a changé notre vie complètement. C'est chaud, ça sèche rapidement. Donc, c'est sûr qu'on est beaucoup plus confortable. Aussi, les détendeurs de plongée, avant ça, qui gelaient, quand ça faisait 15-20 minutes qu'on était dans l'eau, on appelle ça tomber, excusez l'anglicisme, en free flow, là, vraiment, c'était ça gelait ouvert, puis donc là, ça sortait rapidement de nos bonbonnes de plongée. Donc aujourd'hui, on voit pas ça, là, c'est ça, tout ça, et ça a amélioré énormément. Donc, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, je dirais, beaucoup plus sécuritaire aussi. Et après ça, ben, t'as toute l'avenue de la caméra. Ce qui a changé le plus au niveau de la caméra, c'est les batteries. L'avenue des nouvelles batteries. Comment ils appellent? C'est quoi les batteries aujourd'hui? Attends une minute. Maudit. Ça m'écœure quand je perds un mot comme ça. En tout cas, l'avenue des nouvelles batteries fait qu'aujourd'hui, on peut rester, à faire des images pendant une heure et demie. Et, à partir au début, dans les années 90, quand on descendait avec une caméra sous l'eau, au bout de 15-20 minutes, la batterie était à plat. Donc, il fallait ressortir, tout recommencer à recharger tout ça. Donc, ça aussi, ça a changé beaucoup. Les caméras ont changé quand même passablement. Il y a vraiment une chose qui s'est améliorée beaucoup, c'est vraiment ce qu'on appelle les capteurs. Donc, on a besoin beaucoup moins de lumière aujourd'hui sous l'eau qu'auparavant. Mais par contre, quand on est dans l'Arctique l'été, il y a du soleil 24 heures par jour. Donc, c'est pas ça qui a la plus grosse influence, là. Donc, c'est vraiment les batteries au lithium qui a changé notre monde de pouvoir rester beaucoup plus longtemps, là.
Évidemment, votre métier comporte plusieurs risques, comme l'hypothermie, mais encore plus des rencontres avec des prédateurs. Est-ce que vous avez des trucs pour obtenir des bonnes images tout en restant en sécurité?
Donc, c'est sûr que quand on va filmer des morses, quand on va filmer des ours polaires, donc c'est ça, des animaux là quand même qui sont pour AD des très dangereux. Même pour moi, le morse est plus dangereux que l'ours polaire, là. Donc, c'est sûr qu'il faut prendre des précautions, mais surtout, il faut beaucoup observer. Parce que les humains ont la fâcheuse habitude de regarder des animaux dans une même espèce, disant que c'est comme des clones, là. C'est comme ils sont tous pareils, mais ils ont tous des caractères différents. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention avec je plonge avec les ours polaires, mais non, je plonge pas avec tous les ours polaires. Donc, il y en a un que je vais laisser passer. Des gros mâles, là, avec des balafes, là, les gros bagarreurs, mais c'est sûr que je me lancerai pas dans l'eau avec cela. Donc, il faut observer beaucoup. Il faut toujours avoir une porte de sortie. C'est ça qui est important. Par contre, quand on parle des ours, quand on parle de notre porte de sortie, c'est d'aller vers le fond. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on ait beaucoup d'air, qu'on ait assez pour pouvoir descendre et rester quand même un certain temps en profondeur pour être sûr que les ours partent. Donc il y a plein de choses qu'on a développées au fur et à mesure, et aussi compte qu'on savait pas quand on a commencé les premières fois avec les morses là. Donc c'est sûr que moi on avait amené une cage à requins parce qu'on n'avait aucune idée et tout le monde nous disait que c'était extrêmement dangereux, et c'est dangereux aussi, mais à force de les observer, on sait aujourd'hui qu'on peut aller jusqu'à une limite, puis il faut pas dépasser cette limite-là. Même chose avec les ours. Les ours, on savait pas au début comment ils allaient réagir. On sait aujourd'hui que dès qu'ils atteignent à peu près 3 mètres ou maximum 4 mètres, ils ont mal aux oreilles comme nous. Donc, la pression de l'eau fait que ça pousse sur leur tympan d'oreille. Donc, ils vont arrêter puis ils vont remonter vers la surface. Donc, notre sortie est vers le fond. Mais on savait pas ça au début. Donc, c'est vraiment des choses à force et à mesure de plonger, d'observer et passer des heures et des heures, hein. Moi, je suis allé 42 fois dans l'Arctique, et sur mes tous ces voyages bout à bout, là, mais j'ai passé plus de 2 ans dans l'Arctique à observer, à regarder, parce que tu plonges pas à tous les jours, bien sûr. Et, les Inuits m'ont appris énormément. Donc, travailler avec les Inuits, ça a été un privilège énorme. Donc, parce que quand ils chassent, donc je suis allé beaucoup à la chasse avec eux aussi, juste pour les observer. Et quand on chasse ou quand on va faire des images, ben on peut dire qu'il y a juste la dernière fraction de seconde où tu pèses une gâchette, que la gâchette est différente, parce que c'est exactement la même chose. La méthode d'approche, comment... bien sûr, justement, de s'approcher des animaux, mais de pas trop les prendre en surprise, quand même d'annoncer ta présence, parce que s'ils te prennent en surprise, c'est là qu'ils peuvent être dangereux. Donc, il y a des façons de faire, et les Inuits, mais sont passés l'art dans cette façon-là. Donc, en allant avec eux, en les observant, en me donnant plein de conseils, mais j'ai réussi au fur et à mesure aussi, au moins, d'aller chercher des images en s'approchant assez près de ces mammifères marins-là.
Justement, parlant du peuple Inuit, Quelle importance occupe-t-il dans vos expéditions?
Donc, le peuple inuit, pour moi, fait partie de si on peut mettre ça entre parenthèses, du succès de ma vie de caméraman sous-marin. Sans eux, j'aurais jamais fait la moitié de ce que c'est que j'ai fait, premièrement. Et aussi, c'est un peuple extraordinaire. Donc, c'est un peuple qui a vécu et survécu par des fois extrêmes, donc dans de la grosse misère aussi. Donc, ils ont su s'adapter en plein de façons. Tu sais, c'est pas pour rien qu'ils ont plus de 10 façons de parler de la neige. Hein. Nous, c'est de la neige. Là, ben, eux, il y a plus de 10 noms là, parce que tu as de la neige mouillée, tu as de la neige. Donc, le vocabulaire est développé énormément par rapport à la nature comme telle, beaucoup plus que nous. Donc, c'est sûr qu'ils sont proches de cette nature-là. Et même après 42 voyages dans l'Arctique, je pourrais pas concevoir aujourd'hui d'aller dans l'Arctique sans mes guides inuits. Ben oui, je pourrais sûrement y aller, j'ai un port d'âme, je pourrais m'organiser, mais ça serait vraiment pas aussi efficace que, bien sûr. Et la grande chance que j'ai aujourd'hui aussi, c'est que j'ai des guides, et c'est les fils de mes guides il y a dans les années 90, donc ça restait un peu dans la famille aussi. Donc j'ai vu ces jeunes-là quand il y avait 4-5 ans, puis aujourd'hui quand 25 ans, 30 ans, là, donc... Et bien sûr, ça reste que ça fait une certaine affinité aussi à la famille. Donc, ils me connaissent bien. Moi, j'ai une grande confiance en eux aussi. Et ils m'apportent beaucoup de choses. Là.
À travers les années, vous avez filmé beaucoup d'animaux. Lesquels vous fascinent le plus?
Mais quand on regarde les animaux comme tels dans son ensemble, il y a des animaux qui étaient très difficiles à aller chercher les premières images, comme les ours polaires, comme les morses aussi, mais qu'on a réussi. Mais quand on parle de fascination vraiment versus un mammifère marin, ça reste pour moi les baleines. Les baleines en cette intelligence de nous regarder, de savoir exactement le volume qu'ils occupent dans l'eau, il est exactement où on est dans l'eau aussi. Et c'est pour ça que quand il va nager, quand il va donner, bien sûr, des coups de nageoire ou des coups de queue, ben, il va toujours faire attention de ne pas nous frapper. Donc, ils sont conscients de ça. Donc, c'est d'une très, très grande intelligence. Et je pense que me retrouver avec une baleine dans l'eau pendant une heure, des fois une heure et demie, c'est un privilège énorme. Et il y a des sensations, il y a des choses qu'on ressent pas peut-être avec d'autres animaux. Tu sais, c'est fascinant d'être avec des phoques et de fois jouer quasiment à cache-cache sous la glace. Si on parle des ours, ils sont beaucoup plus droits. En plus, il n'y a pas énormément d'émotions comme telles, ou chez les morses aussi. Mais on peut dire que les baleines, il y a une émotion. Il y a quelque chose qui passe, là.
Lorsqu'on écoute vos documentaires ou qu'on vous voit en entrevue, c'est évident que l'Arctique semble être votre continent de prédilection pour aller prendre vos images. Qu'est-ce qui fait que c'est l'endroit qui vous intéresse le plus?
Présentement, l'Arctique est l'endroit dans le monde qui se réchauffe le plus vite sur la planète. Donc, déjà là, on se trouve à un point où on a des températures qu'on n'a jamais vécues, en tout cas de mémoire d'homme. Vraiment dans le haut de l'Arctique, le 1er juin, en 2020, il a fait 21 degrés, donc c'est 22 degrés au-dessus de la moyenne. Là. C'est du jamais vu. Là. Je dis pas que ça s'est pas passé il y a des millions d'années, ben, au moins depuis qu'on existe, nous, puis qu'on prend des statistiques, puis tout ça. Donc, c'est sûr que présentement, c'est l'endroit aussi où ça change le plus vite. Quand on parle justement de la glace, ben pour moi, je pense que c'est l'endroit dans le monde où il y a le plus de biodiversité, malgré que beaucoup de gens marchent sur la banquise pensant que c'est vide, qu'il n'y a absolument rien. Et on retrouve toute la chaîne alimentaire sous cette glace-là. Donc, t'as du phytoplancton qui va attirer du petit zooplancton, qui va attirer des petits poissons, qui va attirer des poissons un peu plus gros, qui va attirer les phoques, qui va attirer les ours. Donc, tu trouves la chaîne alimentaire de sa base aller jusqu'aux super prédateurs, même comme des épaulards, comme les orques qui viennent faire leur tour. Et tout, présentement, il est prêt de se modifier dans l'Arctique. Si on prend juste le haut de la baie du Tisson, donc on parle du sud de l'Arctique, présentement, il y a 82% de moins de glace l'été qu'il y en avait dans les années 92-93. Ça fait que c'est énorme. On parle pas de 15 ou de 20, on parle de 82%. Parce que les années 92-93-94, c'est les dernières années qu'on pourrait appeler normales. Dans l'Arctique, ça veut dire d'un froid normal, avec de la glace normale, où les phoques attrapaient encore leurs 40-50... Les ours polaires, excusez, attrapaient leurs 40-50 phoques par année. Donc, on n'entendait pas parler dans ce temps-là que les ours polaires avaient de la difficulté. Ça allait très bien pour eux. Aujourd'hui, à cause de cette fonte des glaces-là, ben dans cette partie du globe-là, les ours polaires sont obligés de passer 2 mois de plus sur la terre ferme. Et on sait qu'ils attrapent leur nourriture sur la banquise, donc ils pas sur la terre ferme. Ça veut dire pour eux 2 mois de plus à ne pas manger. Et s'ils sont chanceux, qu'ils trouvent une carcasse de caribou, de phoque ou de beluga, ben ils vont survivre. Mais s'ils trouvent absolument rien, ben, ce qui fait que ça va en faire disparaître par, justement, par la faim, où on va en trouver beaucoup plus qui sont chétifs, juste la peau et les os, par rapport aux années, mettons, début des années 90, quand je suis allé, où c'était très, très, très rare de voir des ours polaires décédés ou chétifs.
Concernant les changements climatiques, c'est quoi l'importance de la biodiversité en Arctique et qu'est-ce que la fonte des glaces provoque comme conséquence sur le reste de la planète?
Ce qu'il y a de plus important, bien sûr, dans l'Arctique, pour moi, c'est la glace et c'est ça qui est prêt de disparaître parce que toute la vie marine, toute la chaîne alimentaire est sous la glace ou sur le bord de la glace. Ça veut dire que quand on va s'immerger sous ce qu'on appelle le flow edge, donc la lisière des glaces, où là la glace termine et que l'océan commence, mais c'est là qu'on va voir cette vie-là immense. Et si on s'en va dans la mer, mettons qu'on avance à peu près à peine de, je sais pas, une centaine de mètres, là, mais il n'y a presque plus rien. Donc, la vie se maintient sur la glace, elle va suivre la glace, et cette glace-là est appelée à disparaître un jour au complet. Ça fait où tout ça va aller, où tout ça, va disparaître, où il va falloir qu'il s'adapte. Donc, il va y avoir des changements majeurs, parce que là, on sait que quand on regarde la superficie de la glace, elle a près de rétrécir comme peau de chagrin, là, donc vraiment à une vitesse incroyable. Mais par contre, ce qu'on voit pas ou qu'on parle de moins, c'est l'épaisseur de la glace. Parce que l'épaisseur aussi diminue. Donc, ce qui veut dire qu'en tout, le cubage diminue énormément. Et donc, nous, quand on se promenait avec nos guides Inuit, mettant en comatique, avec une motoneige, c'était très rare qu'on arrêtait pour sonder la glace. Ça pouvait arriver une fois, deux fois dans une journée. Et aujourd'hui, à toutes les 20 minutes, une demi-heure, on doit sonder, voir si on peut passer avec le poids des machines. Donc, on voit que c'est vraiment une énorme différence, là.
Est-ce que tout ça peut créer des événements climatiques au sud?
Oui, parce que ce qui se passe au nord est très important puis il va avoir une influence directe sur le climat. Hein. Si on parle de l'Arctique et l'Antarctique, ce sont ce qu'on appelle les régularisateurs du climat sur Terre et on est prêt de dérégler ces parties-là. Juste un exemple, quand on parle du jet stream, donc du courant jet, le courant jet, tant qu'il faisait froid dans l'Arctique, ça veut dire qu'il s'amenait de l'ouest vers l'est, il faisait un rond qui était vraiment solide, ce qui maintenait bien sûr le froid en haut de ce courant-là et la chaleur plus en bas. Aujourd'hui, le fait qu'on a diminué ce froid-là dans l'Arctique, mais aujourd'hui, ça veut dire que ça a diminué la vitesse du courant jet et aujourd'hui, donc, ça fait des ondulations. Et quand on parle d'une ondulation, ça veut dire que ça descend vers le bas et ça monte vers le haut. Donc, c'est pour ça que des fois, on a des froids immenses au Québec, puis les gens se disent, ben comment ça, le changement climatique, ça fait une semaine qu'il fait moins 35 degrés, mais c'est le froid qui vient de l'Arctique en descendant dans cette ondulation-là. Et c'est pour ça qu'on a eu des immenses chaleurs aussi du côté de l'Arctique, parce que quand l'ondulation monte vers le haut, ça veut dire que la chaleur monte vers le haut aussi. Donc déjà, on a déréglé le climat, il est déjà, je dirais, trop tard de cette partie-là, et bien sûr, ça va juste faire de s'accentuer. L'autre chose qu'on va surveiller dans les prochaines années, qui va être assez aussi, bon, je dirais pas catastrophique, mais qui va changer beaucoup de choses, c'est qu'on est à près de ralentir présentement ce qu'on appelle le Gulf Stream. Donc le Gulf Stream qui régularise aussi une grande partie de la chaleur. C'est pour ça qu'on a du vent à Bordeaux maintenant, okay? Parce que ça amène une certaine chaleur dans ce coin-là. Et c'est pour ça aussi qu'il faut parler de changement climatique et non pas de réchauffement, parce qu'il y a des endroits qui vont se refroidir. Donc aujourd'hui, avec l'arrivée en masse de l'eau douce, donc on est à près de ralentir ce Gulf Stream-là, qui va passer par un autre endroit, donc qui va changer sa course, ou tout simplement qui va ralentir. Donc, il va avoir des endroits qui vont se refroidir quand même passablement, et il y a beaucoup d'endroits aussi qui vont se réchauffer passablement, et on sait que dans l'eau, tout est géré par la température de l'eau. Hein. Nous, les humains, on marche avec des dates, avec des heures. L'eau, c'est un dixième de 1 degré, ça fait dévier les bois de poisson à gauche ou à droite. Là. Et présentement, on est en train d'augmenter cette température de l'eau là, assez radicalement, ce qui fait que les grandes routes migratoires sont en train de changer aussi, et on retrouve des animaux à un endroit, des poissons, des requins, où on ne les trouvait pas avant. Et quand on commence à changer cette dynamique-là, alors, on rentre dans un système qu'on peut appeler tout simplement une compétition intraspécifique, c'est que les mêmes, il y a juste une nourriture disponible pour des plus différentes espèces. Donc, c'est ce qui veut dire que les plus vite, les mieux organisés vont survivre, puis les autres, ben, vont y passer. Donc, on sait présentement qu'il y a des espèces qui vont disparaître assez rapidement. Et il y en a d'autres qui vont proliférer, comme les méduses. Présentement, on a prêt de créer leur monde idéal. Donc, c'est sûr qu'ils vont proliférer, là.
J'ai entendu dire que les méduses ne cessent jamais de s'alimenter. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce phénomène?
Ben c'est ça, le problème des méduses, c'est que c'est un carnivore sans cerveau, aucune intelligence. Ah, okay. Et donc, il y a un système pour se nourrir, donc avec les tentacules, d'attraper de la nourriture. Puis, ils ne sont pas capables de se dire, ben, j'ai assez mangé aujourd'hui, je m'en garde pour demain. Hein? Donc, il n'y a pas d'intelligence. Donc, ils peuvent en manger pendant 1 heure, 10 heures, 100 heures. Et c'est pour ça aussi, bien sûr, que le fait que présentement qu'on est prêt de créer cette température-là dans l'eau, parce qu'une méduse, plus l'eau est chaude, plus elle va proliférer. Une méduse a des millions de petites méduses. Donc, on est après de justement de laisser au monde sur Terre présentement cette problématique-là. Parce que depuis que le monde existe, il y en a eu des proliférations, probablement des méduses aussi, mais il y a tout le temps des prédateurs qui viennent s'en occuper. Et dans le cas des méduses, ben, il y a 3 prédateurs principaux. Donc le principal, c'est le thon rouge. Et le thon rouge, ben, on l'a tout mangé en sushi, hein? Il ne reste presque plus. Il y en a 80% qui ont disparu depuis les années 70. Et il y a aussi le deuxième, c'est la tortulette. Et la tortulette, ben, son nombre diminue d'année en année assez drastiquement à cause des plastiques qu'il y a dans les océans. Parce que, bien sûr, une tortulette qui mange des méduses, donc 50-60 kilos par jour, donc c'est des sacs de plastique qu'elle va y manger aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes présentement avec ces plastiques-là dans les océans, qui est une source de pollution vraiment malencontreuse et qui... ils vont faire disparaître bon, les tortulettes et les requins-baleines aussi sans aspirent. Eux autres, ils tirent l'eau. Et donc, s'il y a du plastique, ben, ils les prennent aussi, ils les avalent aussi. Et ça crée ce problème-là qu'à un moment donné, mais il y a l'estomac assez obstrué qu'ils ne peuvent plus manger. Donc.
Étant donné que vous êtes Madelino, revenons un peu aux îles de la Madeleine, justement. Comment ça se passe par rapport à l'érosion ici?
Ben, présentement, si on parle aux îles de la Madeleine de l'érosion, il y a 2 facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il y a beaucoup moins de glace qu'il y en avait auparavant. Ça veut dire qu'avant ça, on avait une protection naturelle de la glace au moins janvier, février, mars, avril. Ben, on n'avait pas de vagues, on n'avait pas d'eau qui venait manger, bien sûr, les falaises. Donc, le fait de ne plus avoir cette protection-là, ça veut dire que ça gruge à l'année. Et aussi, l'autre facteur, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Hein. On sait que le niveau de la mer augmente environ de 2 mm par année. Et 2 mm par année, une année, on n'en parle pas. C'est pas beaucoup, mais 10 ans, ça fait 2 cm. Et ça, c'est immense, c'est énorme. Et en plus, on parle toujours d'une générale sur Terre. Et les îles de la Madeleine, par sa situation géographique en plein milieu du golfe, ben, c'est un peu plus que 2 mm par année. Donc, on va chercher une cote encore plus haute que ce fameux 2 mm-là. Mais même si on en restreint à 2 mm par année, je sais déjà que par une grosse tempête du mois de novembre, ce 2 mm-là, parce que quand il y a du vent pendant 80 km, pendant 24 heures, ça amène vraiment une augmentation. C'est ça qu'on appelle une surcote. Donc, on va tomber à 20 mm d'eau de plus. Donc, déjà, dans une tempête, dans 20 ans d'ici, au mois de décembre, il va y avoir 20 centimètres d'eau plutôt de plus que qu'est-ce qu'on trouve présentement. Donc, ça va manger encore beaucoup plus les falaises, ça va gruger beaucoup plus. Et ça, ben, c'est sûr que c'est extrêmement dur sur l'érosion.
Oui, c'est clair.
Vous avez participé à plusieurs documentaires. Il y a notamment aussi l'exposition « L'Odyssée sous les glaces » avec le Cirque Éloise à Montréal. Il y a des conférences. Qu'est-ce qui vous attend dans la prochaine année, M. Cyr?
Ben, c'est-à-dire que c'est sûr que moi, comme à peu près tout le monde, la pandémie a changé beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui a été annulé, tout a été repoussé.
Okay.
Donc là, ça s'enligne pour entrer un peu comme dans un goulot d'entonnoir. L'année prochaine, ça annonce complètement folle ce côté-là, énormément de tournages. Mais ici, on ferme parce qu'on est au bistrot présentement, bistrot Alpha.
Ouais.
Donc on ferme le 25, puis dès le 29, ben, je vais travailler du côté de la Nouvelle-Écosse. Donc, pour faire des documentaires. Et ensuite, on va être dans la région de Québec. À partir du mois de janvier, je vais être du côté de la Colombie-Britannique. Fin février, mars, on revient aux îles dans les phoques du Groenland s'il y a de la glace. Et avril, ça va être l'Arctique encore. Donc, la prochaine année est encore bien pleine. Et je dirais que l'autre année qui s'en vient après aussi, là, la même chose. Ça.
Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, M. Cyr, pour la générosité d'avoir répondu à nos questions. Je suis certaine que la population étudiante de l'Université de Sherbrooke va être très heureuse d'en apprendre plus sur vos périples. Merci beaucoup.
Bon, ben super, merci.